Bonjour, je m'appelle Marlène.
Je m'appelle Daphné.
Nous sommes actuellement sur Bac FM en compagnie de Catherine Essomé, qui est une psychologue et une hypnothérapeute. Nous allons donc lui poser des questions sur le thème des troubles alimentaires. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est votre métier concrètement ?
Bonjour d'abord et merci d'avoir fait appel à moi pour cette émission. Mon métier consiste à recevoir des personnes qui ont une plainte sur un versant de leur existence et qui voudraient opérer soit un changement, soit comprendre pour que cette difficulté-là puisse être surmontée. Voilà, je dirais comme ça. Je reçois aussi bien des enfants que des adolescents, que des adultes. En ce moment, je peux dire que j'ai beaucoup d'adolescents, jeunes adolescents et grands adolescents, enfin je le dis comme ça. Ce serait une tranche d'âge entre 13 et 20 ans, voilà, avec des troubles anxieux importants.
Comment vous définiriez les troubles alimentaires et comment vous faites pour accompagner en général une personne ?
Alors, les troubles du comportement alimentaire, je définirais ça comme une perturbation du rapport à la nourriture, plus ou moins importante, qui se traduit de manière différente selon les personnes. Et l'accompagnement, je trouve qu'il est difficile, l'accompagnement sur les troubles du comportement alimentaire, parce que dans ma clinique, les jeunes que j'ai accompagnés, parce que c'était que des jeunes qui sont venus à moi, enfin ils sont déjà pas venus à moi, c'est leurs parents qui me les ont amenés, donc ça fait toute la différence, c'est-à-dire que la demande elle émanait pas d'eux, et que ces jeunes étaient déjà bien englués dans ces troubles du comportement. Et voilà, dans mon métier, c'est quand même la base, c'est la demande. Et si la demande n'émane pas du sujet qui vient me rencontrer, c'est compliqué.
Et est-ce que vous avez remarqué que les troubles alimentaires étaient causés parfois par le vécu de la personne, donc de son histoire en gros ?
Oui, très souvent. Il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on a le sentiment de ne pas avoir. La question aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui est là aussi dégradée. Comme si ce trouble, enfin ce rapport à la nourriture était une tentative d'essayer de maîtriser quelque chose dans son existence. Je dis bien tentative.
Est-ce que du coup, il y a certains agissements qui sont propres aux troubles alimentaires ? Est-ce qu'il y a des points communs qu'on peut retrouver entre les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ? Par rapport à leur comportement, la manière dont ils vivent leurs troubles alimentaires.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'on identifie trois troubles du comportement alimentaire majeur. L'anorexie, qui consiste à une restriction plus ou moins importante, mais souvent drastique, de la nourriture. En tout cas, contrôler ce qu'on ingère. Et sinon, il y a la boulimie qui, à l'inverse, est définie comme des moments de compulsion alimentaire importante. Donc, on se jette sur la nourriture. Et après, il y a toujours, dans la boulimie, c'est toujours suivi d'une, ce qu'on appelle une purge. C'est-à-dire, soit on se fait vomir, soit enfin, on essaye d'éliminer, soit on prend des diurétiques, soit, pour essayer de d'éliminer ce qu'on vient d'ingérer, avec entre les deux toujours une période de grande culpabilité. Et puis un troisième trouble du comportement alimentaire, ce serait l'hyperphagie. Ça consiste en des compulsions alimentaires aussi où là on mange, mais à l'inverse il n'y a pas de purge.
Et est-ce que vous avez des exemples de situations particulièrement marquantes ?
Oui, je me souviens toujours de cette jeune fille qui m'est adressée par ses parents d'une grande maigreur. Je me suis souciée d'elle, vraiment. Ça m'a fait peur, ce comportement-là, parce qu'elle y tenait. Elle ne voulait pas bouger de ça. C'était important pour elle de tenir à ce comportement-là. Et c'est comme si elle n'en avait jamais fini. Elle était encore, selon elle, trop grosse. Encore, il fallait encore qu'elle réduise les choses, qu'elle ingérait. Elle faisait beaucoup de sport, beaucoup, à outrance. Et j'avais échangé avec la parce que on n'est pas tout seul dans cette prise en charge. Hein. Souvent, je suis en lien avec un diététicien ou un nutritionniste et qui était aussi alarmé que moi. Et quand un sujet tient à son symptôme, quand il tient à ce comportement-là, c'est difficile de faire bouger les choses hein, s'il ne le désire pas.
Et donc justement pour revenir sur ce que vous avez dit auparavant, lorsque du coup c'est les parents qui, bah, c'est souvent le cas, qui forcent les enfants à aller voir de l'aide, comment vous faites déjà pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils acceptent le fait qu'ils ont besoin d'aide ?
Ah, ça c'est la grande question de mon métier. Je crois que je le peux pas. Je présente toujours le lieu dans lequel j'exerce mon cabinet, ce qu'est ce lieu avec ses principes de confidentialité, de respect du tempo de la personne, et que c'est un lieu qui peut être destiné à cette personne-là, et que y a en revanche un moment où c'est ok, où elle est prête à. Et si c'est pas maintenant, ça peut être plus tard. Mais en tout cas, ce que je leur dis toujours aux jeunes, c'est que ma porte est grande ouverte. Et souvent, ils repartent avec mon adresse mail en disant, voilà, t'as ça en poche, tu l'utilises pas, peu importe. Mais si t'as besoin un jour, ben n'hésite pas. Voilà. Certains s'en servent, d'autres s'en servent pas. Mais je pense que c'est important. Même si on n'est pas prêt à entamer une thérapie, c'est important d'avoir quelque chose en poche.
Et du coup, quelle serait la meilleure façon de se sortir des troubles alimentaires ?
La meilleure des façons, quel que soit le trouble, hein, c'est déjà une première démarche qui consiste à reconnaître qu'on est envahi par ce trouble. Ou quel qu'il soit hein, d'ailleurs, et que on a envie de changer, on a envie de faire autrement. Et c'est souvent la question que je pose, surtout aux jeunes enfants qui vient, jeune enfant ou adolescent d'ailleurs, hein, qui vient sur la demande de ses parents, c'est leur demander s'ils ont envie que ce soit autrement. Ou alors la question qui consiste à les projeter dans le futur, en leur demandant comment ce serait si c'était bien pour toi. Et qu'ils parviennent à me décrire, je mangerais normalement, ça m'envahirait plus, je ne penserais pas tout le temps à la nourriture, enfin voilà, des choses comme ça. Parfois, il n'y a pas de réponse, en tout cas pour l'instant.
Est-ce que donc, dans l'histoire, il existe des traces qui évoquent les troubles alimentaires ? Je pense notamment aux jeunes filles qui portaient des corsets, donc il y a 300 ans par exemple, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez si elles avaient quelconque forme de trouble alimentaire
Je sais pas. Je sais pas. Mais dans ce que tu dis des traces, je crois que la trace, c'est quand même tout ce que notre société actuelle véhicule sur l'apparence. Le corps, comment il doit être. Même si on a l'impression, je le dis bien comme ça, l'impression que les choses bougent et évoluent avec tout ce qui est body positive, etc. Pour autant, ça me fait associer. Je me souviens d'une jeune fille qui était à l'orée, hein, quand même, hein, des troubles du comportement. C'était pas encore déclaré, mais on sentait quand même qu'elle avait un rapport. S'il n'était pas perturbé, en tout cas, il commençait à être troublé par rapport à la nourriture. Et cette jeune fille de me dire, je me trouve trop grosse, je fais du sport, je voudrais pas avoir de ventre, je voudrais avoir plus de fesses. Enfin bon, voilà, tout un tas de choses. C'était pas bien, en tout cas, comment elle était. Et elle avait une espèce d'idéal. Et pourtant, elle me disait, elle était assez militante sur tout un tas de sujets, et elle me disait que quand elle voyait une personne ronde, on va le dire comme ça, elle trouvait ça joli, harmonieux, tout ce qu'on veut, mais pas pour elle. Alors peut-être que la trace, c'est ça, le reflet dans le miroir en fait. Et comment on se voit, hein ? Parce que dans l'anorexie, il y a cette question de la dysmorphophobie, c'est-à-dire que on se regarde dans le miroir et on, même si on est d'une maigreur extrême, on se trouve encore trop gros. On ne se voit pas tel qu'on est et tel que peut-être les autres nous voient.
Et est-ce que vous considérez du coup que la précarité étudiante a augmenté le cas de troubles alimentaires chez les jeunes ?
Ah oui, j'ai pas songé à ça, mais en effet, on a l'impression que le porte-monnaie, ou en tout cas les capacités financières, déterminent un peu notre alimentation. Et peut-être à tort. Enfin, voilà, moi je jette la pierre à personne, bien évidemment, et je voudrais pas être dans le jugement, mais... Après, quand on est étudiant, est-ce qu'on mange 5 fruits et légumes par jour ? Est-ce qu'on a une diététique irréprochable ? Je suis pas sûre. Enfin, je plonge dans mes vieux souvenirs d'étudiante. Je pense que j'ai eu affaire, à, moi aussi, à la malbouffe. Et c'était bon à cette époque-là.
Quel conseil vous donneriez à une personne qui souffre de troubles alimentaires et surtout à son entourage ?
Eh bien, c'est peut-être plutôt à son entourage que je donnerai des conseils d'arriver à repérer ça. Il y a des signes d'alerte. Enfin, si on déjeune avec cette personne, souvent on voit quand ça change et comment ça change. D'une restriction, de faire une attention excessive à la nourriture, de... c'est un peu le syndrome de trier dans son assiette hein, et d'ingérer les aliments en quantité de plus en plus réduite. Donc ça doit alerter. Tout ce qui est changement, en fait c'est tout ce qui est changement de comportement, vous voyez. Et ça, je crois que ça touche les troubles du comportement alimentaire. En tout cas, ça signe quelque chose. Un changement... de comportement qui soit brusque ou qui s'installe dans le temps, mais qu'on arrive à repérer quand on fait partie de l'entourage. Bon, voilà, je crois qu'il faut inviter à se faire aider, pas juger, pas tenter de raisonner, parce que voilà, quand on saisit ça, un rapport comme ça à l'alimentation, c'est difficile de s'en dessaisir.
Et donc, du coup, justement, par rapport à l'entourage, donc quand cet entourage, il remarque les comportements, les changements de comportement dont vous nous avez parlé, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent en parler directement à la personne concernée ou non, alors parce que ça pourrait la brusquer, par exemple ?
Alors, c'est toujours la façon qu'on a de s'adresser à cette personne-là. Est-ce qu'il faut y aller de manière frontale ou de manière détournée ? En tout cas, ce qui est important, et c'est exactement comme ce que je propose quand je donne mon adresse mail, c'est avoir quelque chose dans la poche, c'est dire on est là, on est à côté si tu as besoin, et pas laisser l'enfermement, parce que c'est quelque chose dans lequel on s'enferme. Et pour la personne qui souffre de ces troubles du comportement alimentaire, c'est toujours difficile de parler de ça avec ses proches. Parce qu'il y a toujours ce sentiment que si on en parle, on va nous faire abandonner ça. Et bon, voilà, il y a quelque chose de... on y tient hein, quand on est dans cet engrenage-là. Mais en tout cas, être présent, ça c'est important. Et puis entendre, et puis être disponible si l'autre a besoin... qu'on l'écoute dans ce moment-là, mais c'est pas facile. Dans l'entourage, on peut se sentir impuissant. Et c'est bien la difficulté. Moi, quand je reçois les jeunes, je reçois pas les amis, les camarades, mais je reçois les parents, et c'est ce sentiment d'impuissance qui est difficile, vraiment.
Merci pour vos réponses. Où est-ce qu'on pourrait retrouver des informations sur les troubles alimentaires ?
Ah ben, sur notre bon vieux Google. Mais voilà, il faut arriver à trier ces informations-là. Mais c'est vrai que vous pouvez trouver ça auprès des nutritionnistes et des diététiciens aussi, hein, qui ont affaire avec ces jeunes, auprès des psychologues, auprès de tout un chacun qui pourrait vous réadresser. Enfin, je crois que, voilà, il ne faut pas hésiter à parler de ça, à parler des inquiétudes, si ce n'est pas nous qui sommes touchés, mais quelqu'un de proche et de notre entourage. En tout cas, voilà, pas hésiter à dire. C'est toujours compliqué, hein, on y va, on n'y va pas. On a remarqué des choses, mais est-ce qu'on le mentionne ? Est-ce qu'on... de peur de brusquer l'autre aussi, hein. C'est tout à fait bienveillant, et c'est pas parce qu'on n'en a rien à faire, hein, au contraire, mais on se sent maladroit. et avec ce sentiment d'impuissance. Alors, bon, voilà. Je pense qu'il y a tout un tas d'adultes autour qui sont prêts à réadresser aux bonnes personnes.
Bon, ben, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir écouté Bac FM. Au revoir.
Au revoir.